Nous nous réjouissons de ce fleuve de vie qui et il coule au, comme la sève qui coule au travers du cep. Lisons quelques versets en commençant avec Éphésiens 3, des versets 17 à 19. Vous ne voyez pas les frères et sœurs de Karlsruhe, moi je les vois, les frères et sœurs de Karlsruhe pourraient lire ces versets. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Éphésiens 3. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusque toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous lisons encore une fois, Jean 17, versets 17 à 19. Jean 17, versets 17 à 19. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. C'est merveilleux. Le Seigneur parle en ce temps. Il parle de mystère, de secret, et je trouve que c'était merveilleux dès le début de voir ce que Dieu a prévu avec nous. Il désire avoir un témoignage visible avec nous, et pour cela, il a tout préparé en nous. Il a tout préparé. Il a tout disposé en nous. Et le Seigneur et le Père veulent nous amener dans cette unité avec eux. Et nous avons vu durant la première réunion que Dieu a révélé sa gloire par la création et bien plus par son peuple et au temps de la nouvelle alliance. Cela est devenu clair, c'est que Dieu était venu dans un homme sur terre et nous avons vu sa gloire. Et cela ne s'est pas arrêté à ce seul homme. Le Seigneur a dit, vous verrez des choses plus grandes encore. Et puis dans Jean 17, nous avons lu, je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un. Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Il voudrait nous rendre tellement un avec lui. Nous avons déjà cette gloire. Quelqu'un m'a dit que vous voyez un peu d'oblique sur la caméra, sur l'écran, mais c'est la technique. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur pour tout le plan de Dieu. Il y a tant de choses que nous pouvons voir là. Il n'y a pas tant à faire d'abord, mais voir ce que le Seigneur a préparé pour nous et connaître là où le Seigneur veut nous amener. Nous avons vu Dieu révélé en chair. Et cette révélation de Dieu dans la chair, c'est Christ qui est venu sur terre pour être l'expression du Père. Mais aujourd'hui, il veut l'être par nous. Il veut se révéler au travers de nous, faire connaître sa gloire. Et il nous conduit dans cette unité avec le Père. Et c'est son désir qu'il a, ce désir merveilleux qu'il a sur le cœur. Et tout ce chapitre, il y a beaucoup de merveilleuses choses dans l'évangile de Jean, des guérisons, chacun peut les comprendre. Mais à partir du chapitre 13, il y a un long discours du Seigneur à ses disciples. Et il leur laisse comme un testament. Et le sommet, c'est Jean 17, où il prie le Père. Et pour, il prie pour tout ce que le Père lui a donné et tout ce qui croirait à sa parole, afin que nous puissions tous entrer dans cette gloire. Et il a aussi dit qu'il a, il n'a perdu personne de ce que le Père lui a donné. Il s'est occupé de chacun pour qu'il reste avec lui. Et même s'il y avait que ce groupe qui restait de tous ceux qui avaient rencontré Jésus, qui avaient reçu une bénédiction de Jésus et qui étaient partis quand c'est leur était devenu trop chaud, mais il y en avait qui étaient là. Et cela, en eux, il a tout investi et les a amenés devant le Père. Et il a dit, il a prié, je veux qu'il soit là où je suis. Et le Seigneur nous a amenés dans cette position. Mais il n'est pas juste question que le Seigneur avait tout fait, mais il attend aussi quelque chose de nous. Il nous faut nous décider. Et ça, c'est le salut. Mais que doit faire le croyant? Il doit se décider. Comme Adam et Ève devaient se décider pour Dieu. Quand ils ont eu cette autre proposition, ils auraient pu se décider pour Dieu. Et d'autant plus aujourd'hui, ce que Dieu nous a confié, il ne s'agit pas là maintenant de se poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu? Ben, le Seigneur, quand les gens lui ont posé la question, il lui a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Nous devons croire et nous décider pour lui. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en lui, ceux qui se sont repentis, qui se sont tournés. C'est toujours une question de décision de cœur. La majorité de nous ont fait cette expérience. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui. Seigneur, je veux t'appartenir totalement. Je veux te suivre. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Mais je voudrais me donner pour ce que tu as préparé. Afin que ma vie a un sens et que à la fin Dieu reçoive la gloire. C'est le désir de Dieu. Et ce matin, nous avons vu tellement encore parler d'un mystère, d'un secret, de l'unité. Cette unité, c'est pas une unité humaine. Ce n'est pas une question d'avoir le bon enseignement et que nous nous faisons tout d'après une bonne confession de foi. Mais il en va que nous soyons dans cette unité avec le Père et le Fils, que nous connaissions ce secret. Et là-dessus, le Seigneur va bâtir. L'Église, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais d'intérieur. Le Seigneur a dit aux disciples, il leur a dit, Attendez que l'Esprit vienne. Et l'Esprit vous conduira, il vous remplira. Et de même, nous devons avoir une telle attitude, comme Marie, qui s'est sortie ce matin dans les témoignages, qui a attendu, était au pied du Seigneur, elle a choisi la meilleure part. Est-ce que voulons-nous faire tant de choses? Il y a tant à faire. Le Seigneur a besoin d'ouvriers dans la moisson, mais il faut des ouvriers comme Marie, qui d'abord écoute le Seigneur, qui d'abord se donne au Seigneur et reçoivent du Seigneur tant. Et des choses que tu reçois du Seigneur, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu as fait pour le Seigneur peut être enlevé. Tu peux avoir la gloire parmi les hommes et tu ne l'auras pas parmi Dieu. Mais ce dont nous avons besoin est dans cette unité et recevoir plus du Seigneur. Et cette unité est tellement bien décrite par le CEP. Et nous l'avions aussi vu le vendredi soir à Karlsruhe où nous lisons l'évangile de Jean. Ce CEP si insignifiant qu'on ne prendrait pas au sérieux s'il n'avait pas ces sarments qui croissent et qui portent du fruit. Imagine-toi un cèpe sans sarment. Tu ne peux pas utiliser le bois, peut-être pour faire un barbecue. Ce cèpe a sa fonction quand il a des sarments, quand il peut donner cette sève au sarment, et quand à la fin, en automne, il y a des fruits. Et ce n'est pas chacun individuellement, mais nous sommes ensemble, ces sarments. C'est aussi sorti. L'Église, Christ et l'Église, c'est un cèpe. Et nous sommes tous des sarments. Quand nous sommes tous ensemble, nous ne sommes pas juste des membres individuels. Nous ne sommes pas juste des gens qui sommes assis là, qui croyons à Jésus. Nous sommes des sarments au cèpe. Et le cèpe, c'est comme un tuyau qui amène la sève. Et les sarments aussi. Tous les jours, il faut que cette sève coule au travers de toi. Nous devons toujours amener toutes les difficultés du quotidien à la lumière véritable. Et cette sève, cet esprit doit couler. Et ça nous guérit, ça nous rend joyeux. Et ça va aussi rendre joyeux d'autres hommes, ça va leur donner de l'espérance. Si tu te promènes toujours si sérieux, ben les gens, ils vont dire, c'est une femme là qui est sérieuse, elle est bonne, elle se conduit de la bonne manière. Mais si tu es joyeux, si tu es bon, sympathique, et tu leur partages quelque chose de Christ, ce que tu as reçu le matin, et même si tu as un temps court et tu as reçu quelque chose du Seigneur, et quand tu rencontres les gens, tu vas avoir quelque chose à donner. Et tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te console, mais tu peux consoler les autres. Et c'est ainsi que le Seigneur veut couler au travers de nous. Et vous savez, un vigneron, il désire pas juste, il fait pas pour avoir des belles plantes parce que c'est une activité sympa, mais à la fin il y a un fruit, il y a un résultat, et c'est pour ça que le Père il travaille. C'est aussi un économe qui a une grande entreprise, il produit quelque chose, il veut produire ses fruits de l'esprit. Louez le Seigneur. Et là, nous sommes dans cette production. C'est pas une usine, c'est un cep. Ce matin, une sœur a parlé d'une symbiose entre le cep et les sarments, mais c'est encore séparé, une symbiose. C'est un lien organique, c'est une plante, comme nous sommes tous des membres du corps de Christ. Christ a beaucoup de membres. Christ a beaucoup de membres, comme le corps. Ne crois pas que Christ est là en haut, dans les cieux. Tu es un membre du corps de Christ. Nous sommes reliés à Christ. Et sa vie coule en nous. Louez le Seigneur. Nous pouvons encore voir tant de choses. Il y a, si, c'est si mystérieux. Ils ne pourront jamais épuiser cela. Et là, le sujet du message 5, c'est notre sanctification pour l'unité. Frères et sœurs, nous avions une communion avec l'Église à Bonn. Sur la sanctification, ce n'était qu'un week-end. Et nous avons vu que nous pouvions passer tant de temps sur ce sujet. Quelle œuvre du Seigneur pour qu'il puisse nous sanctifier, nous changer. Et nous en avons besoin. Et pourquoi nous en avons besoin? Parce que Dieu est saint. Et nous ne pouvons pas tout lui apporter. Et nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Nous pouvons venir comme nous sommes. Nous pouvons toujours venir. Mais sois prêt à cela. Il voudra toujours te changer. Il ne te laissera pas comme tu es. Tu peux venir comme tu es. Tu peux être honnête. Tu ne t'as pas à faire présenter quelque chose. Pas de show religieux. C'est pourquoi nous n'avons pas de belles choses, pas de bel arrière-plan. Ce qui est important pour nous, c'est le noyau, ce qui est à l'intérieur. Et le Seigneur est en train d'agir quelque chose. Et parce qu'il est saint, nous devons aussi être saints. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Nous avions déjà de la communion sur ce sujet lors de la conférence d'hiver. Et il y a encore un point supplémentaire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche. Tu penses que la sanctification est si élevée, et Paul dit, parle de la débauche, et c'est important. Dans le monde, il y a partout la débauche. Et spécialement pour nos jeunes gens, afin que nous ayons une frontière, une séparation du monde. Et la barrière la plus importante, c'est que nous fuyons la débauche. C'est déjà la moitié du chemin de fait. Évite, fuis cette vie charnelle. Avec le Seigneur, c'est différent. Le Seigneur est saint. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Tu viens devant le Seigneur, tu remarques que tu es pécheur. Mais il y a une espérance merveilleuse. Le Seigneur est le saint qui sanctifie, et nous sommes ceux qui sommes sanctifiés. Il nous sanctifie. Pense à Joseph. Il était en Égypte, comme nous aussi. Nous sommes dans un environnement hostile et nous devons servir. Il y a nos travails, nos voisins, des connaissances, la parenté. Mais il y a une séparation. Quand cette femme, l'épouse de Potiphar est venue, viens couche avec moi. Ah ben là, Joseph a mis une frontière. Là, ça va pas plus loin. Point à la ligne. Et même si je dois souffrir pour cela, il est aussi dit de Moïse dans Hébreux 11 qu'il a préféré l'opprobre avec le peuple d'Israël que tous le vain plaisir du péché de l'Égypte. Et tous les jeunes frères et sœurs ont besoin d'une telle attitude. Dans ta classe, à l'université, Ceux qui vont à l'université, ben, ils arrivent et ils sont heureux. Parce que c'est la première fois qu'ils sont loin de chez les parents. Qu'est-ce qu'ils font quand papa et maman ne regardent plus? Et quand le soir, on peut aller jusqu'à aller dans des locaux et il se passe tant de choses. Frères et sœurs, il y a une frontière. C'est la volonté de Dieu. Notre sanctification. Ça commence avec ces choses grossières. Et là, il faut une frontière claire. Le Seigneur a parlé d'une génération adultère. Toute cette humanité, tous ces hommes autour de nous pêchent, pratiquent l'adultère, même à la lumière du jour, l'impudicité. Tu penses que tu regardes un film, mais dans la majorité des films, il y a une scène d'impudicité, au moins une. Tu penses que c'est un film sans problème. Et la manière dont les gens parlent, il nous faut une séparation claire. Le Seigneur nous sanctifie, nous sommes différents. Nous sommes différents que le monde. Le Seigneur nous a sauvés de ce monde. Nous ne sommes pas de son monde, nous sommes nés d'en haut. Et ce n'est pas une opprobre. Ce n'est pas un manque, c'est un privilège. Et nous avons le droit même d'en être fiers. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de prendre ce chemin du monde. Nous sommes sanctifiés dans le Seigneur. Le Seigneur s'est acquis un peuple pour lui. Et cette sanctification importante pour l'unité, pour l'édification de la maison de Dieu, le temple de Dieu est saint. C'est ce que dit Éphésiens 2, 21, afin que nous soyons édifiés pour être une demeure de Dieu en esprit, au verset 22, mais au verset 21, c'est tout l'édifice bien coordonné, Éphésiens 2, 21, s'élève pour être. Tu n'es pas sanctifié dans toutes les choses du jour au lendemain. Tu es sanctifié par ta position. Depuis, avant la fondation du monde, tu as été choisi, puis tu as été appelé, tu as reçu le Seigneur, là tu es déjà sanctifié. Tu es différent que le monde. Mais maintenant, le Seigneur poursuit son œuvre de sanctification dans tout notre être, afin que nous le connaissions de plus en plus et fait quelque chose de nous. Et tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. S'élève, il croit, quelque chose est édifié. Et à la fin, il y a ce temple saint. Et il devient de plus en plus visible. Louez le Seigneur. Et je voudrais, encore une fois, insister, cette sanctification, elle est élémentaire. Elle est fondamentale, si importante. Oui, cette sainteté est vraiment importante. Et maintenant, je vais encore citer Romains 12, versets 1 et 2, qui sont très connus. Romains 12, versets 1 et 2. C'est merveilleux. Il y a une exhortation une exhortation d'un frère comme Paul. Oui, ça, nous acceptons. Je vous exhorte donc, frères, c'est aussi vrai pour les sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous nous offrons comme un sacrifice vivant, saint. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas discerner avec ton intelligence naturelle, qui a peut-être stocké quelques versets, qui a déjà dit oui à une confession de foi, mais si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Il nous faut être séparés, le Seigneur doit nous séparer. Et ce processus ne s'arrête jamais. Si je m'arrête de persévérer dans ce processus de renouvellement, je ne vais pas rester là où je suis, je vais reculer, je vais devenir de nouveau étranger à la vie de Dieu. Nous devons rester dans ce processus. Le cep, il approvisionne continuellement ses sarments. Et puis, j'ai vu ma vigne, là, au-dessus de mon garage. Et en fait, j'ai vu au garage, devant le garage, une flaque. Et ça arrive chaque année. C'est parce que quand je coupe à l'automne le cep, le pied, eh bien, il y a la sève qui sort chaque année à cette période. C'est un fleuve de vie que tu ne peux pas arrêter. Il nous faut connaître ce Saint Christ en nous. Et c'est pourquoi Paul y prie. Quand Paul avait montré tant de choses au sujet de plan de Dieu, et quand il avait prié aussi que Dieu veut montrer sa sagesse infiniment variée par l'Église, mais il a prié dans Éphésiens 3, verset 14. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a voulu montrer que on pouvait prier face à ce plan merveilleux. Nous ne sommes pas capables d'accomplir. Verset 14, qu'il vous fortifie, Éphésiens 3, 14, qu'il vous fortifie par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, fortifie-nous dans l'esprit et que nous soyons édifiés, remplis-nous, même si cette édification se passe en esprit. Il faut plus, il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous l'avons déjà vu dans l'évangile de Jean, c'est montré si précisément dans l'évangile de Jean. Et puis après, nous sommes enracinés, fondés dans l'amour, pas juste dans l'esprit, dans l'amour. Et nous en avons besoin de manière urgente pour l'édification, c'est important. Afin que nous puissions saisir avec tous les saints toutes ces richesses que nous pouvons saisir qu'ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut cette sanctification. Si le Seigneur ne peut pas nous changer, nous sanctifier, nous ne pouvons pas saisir ces richesses. Et alors il y aura des choses entre nous, nos opinions, nos préférences. Nous avons besoin de ce Christ avec lequel nous sommes un, que nous connaissons. Que nous connaissons avec qui nous vivons. Et ceci édifie l'Église. C'est pas juste pour mon progrès, mes progrès spirituels, mais pour la croissance du corps. Si nous croissons tous, l'Église va croître. Et nous avons aussi cette vision, nous voulons saisir avec tous les saints. C'est pourquoi nous avons cette conférence, nous avons cet écran avec tous les noms. Après, nous pouvons aussi voir les visages, de sorte que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de communion. C'est ce temps où nous devons exercer une distanciation sociale, c'est vraiment difficile. Spécialement ceux qui ont de la peine avec avoir des contacts, ceux qui ont de la peine à être seuls, Nous devons prier pour ceux qui se sentent seuls. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de la richesse de tous les saints. Et nous continuons à nous sanctifier. Et il utilise un temps pour nous sanctifier. Oui, il y avait aussi Jean qui était en exil à Patmos. Nous ne sommes pas en exil, mais en quarantaine. Mais Jean avait gagné beaucoup de Christ à Patmos. Il a eu une telle révélation. Quand on lit l'Apocalypse ou les épîtres de Jean, c'est un temps riche. Malgré les privations extérieures, il avait les saints sur le cœur. Et connaître Christ nous permet de saisir avec tous les saints. Et ceci a à voir avec la foi et l'amour. Il y a ce verset dans Philémon 5. Dans Philémon 5. Dans Philémon, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, Philémon 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. J'entends de ta foi, de ton amour, et l'apôtre Paul se réjouissait quand il entendait de telles choses des saints. Oh, je me réjouis aussi toujours quand j'entends quelque chose de la foi des frères et sœurs, de leur amour pour les autres. C'est une joie. Pas juste qu'ils soient remplis d'esprit. Pas juste être remplis de l'esprit, mais de cet esprit, il y a cette foi et cet amour qui se développe. On va encore voir ces points et Holger continuera. Nous avons besoin des deux. Et pourquoi avons-nous besoin de l'amour? Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, verset 32. Soyez bons. Ephésiens 4, 32. Les uns, les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pourquoi tu as besoin de ce Christ, d'être un avec le Seigneur. Car dans notre nature, il n'y a pas toujours cette capacité, cette volonté de pardonner, mais elle est nécessaire, décisive. Tu ne peux pas aimer les frères et sœurs. Il faut que tu sois en communion avec le Seigneur pour aimer les frères et sœurs ainsi. Si nous ne connaissons pas ce secret et de vivre en Christ, alors cet amour ne sera pas tellement notre expérience, bien que l'Esprit ait été déversé dans notre cœur, comme le dit Romains 5:5. Mais pourtant, il y a des difficultés. Je ne peux pas être un avec ce frère. Avec ce frère, cette sœur, ou ces frères et sœurs ne peuvent pas se supporter, et ils sont toujours l'un à l'autre, éloignés l'un de l'autre. Nous avons des reproches les uns aux autres. Tu es si spirituel, mais tu ne peux plus pardonner un frère avec qui tu as servi des décennies. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit au Seigneur, je voudrais pouvoir pardonner à tous mes frères et sœurs. C'est le cœur du Seigneur. Sans cela, ça ne peut pas continuer. Et le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas, ceux qui vous ont offensé, alors votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas. Ça fait partie de la nature de Dieu. Il aime pardonner. Quand nous confessons nos péchés, le Père nous pardonne. Quand nous confessons, pardon Seigneur, je suis toujours encore comme ça, ce n'était pas en ordre ce que j'ai fait. Et le Seigneur me pardonne. Si Si cela n'était pas le cas, je ne pourrais pas être là à me tenir devant vous. Sans le pardon, où serions-nous? Nous n'attendrions que le jugement. Et pourtant, tu es dans l'église et tu penses que tu peux juger les frères et sœurs. Frères et sœurs, nous devons aimer les frères et sœurs, aller les uns envers les autres. Soyez bons, compatissants. Ça fait partie de la nature du Seigneur. L'amour, c'est le kit pour que le corps soit, les membres soient assemblés ensemble. Comme dans Éphésiens 2. Ou dans Jean 15, ce que Seigneur leur a donné comme fardeau. Il a parlé de l'image du cep, du vigneron et des sarments qui portent du fruit. Et après, il dit, demeurez dans mon amour. Et comment ça se fait qu'ils viennent sur ce point de l'amour? Parce que le sarment ne vit pas juste pour lui-même, il est avec d'autres sarments. Il est relié à d'autres frères et sœurs. Et il faut cet amour. Et c'est ce commandement nouveau. Un autre commandement, c'est un commandement ancien et c'est un commandement nouveau. Alléluia. Qu'ils s'aiment les uns les autres. Louez le Seigneur. Sans l'amour, il n'y a pas d'unité. Et nous croyons, nous avons la foi les uns pour les autres. Nous avons parlé de la foi et de l'amour avant d'Philémon. Nous avons aussi de la foi pour les frères et sœurs. Nous ne coupons personne. Si quelqu'un, un lumignon fume, on va pas juste prendre notre main humide et puis on va éteindre le lumignon. Non, on va pas dire, il y a toujours le même problème. Non, le Seigneur n'est pas venu pour éteindre les lumignons, pour briser le roseau courbé. Mais nous qui sommes courbés, il voulait nous relever, il voulait ranimer ce feu. Et c'est ça le Seigneur. C'est pourquoi nous avons de la foi les uns pour les autres. Et c'est ce qu'il a écrit de manière forte dans Philippiens 1:6. Je suis convaincu, c'était la foi de Paul, persuadé, Philippiens 1:6. Je suis persuadé. La foi, c'est la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Paul voyait les frères et sœurs de Philippe. Et il écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je voudrais pas regarder les choses extérieures, mais je voudrais voir ce Christ en vous. Et tout est fondé sur lui. L'Église est fondée sur lui. J'aimerais avoir une telle conviction de Paul, une telle espérance. Je voudrais me laisser contaminer par lui dans cette foi pour les frères et sœurs qu'il va accomplir cette bonne œuvre en nous. Alléluia. Nous devons aimer les frères et l'amour, c'est pas quelque chose. C'est le sommet. C'est le sommet de la croissance spirituelle. C'est ce que nous voyons dans 2 Pierre 1. Je me suis trompé d'abord. Si nous lisons le verset 3, vous pourrez le lire. Tout nous a été donné. Il faut que j'arrive à la fin. Tout nous a été donné. Tout tout a été déposé en nous. Comme tout le code génétique dans une semence, tout est là. De ces semences de courge, ben j'ai reçu des plants de courge. Comment tu reçois un plant de courge? Tu mets une semence et tu mets de l'eau et après il y a cette plante qui pousse et tu la mets dehors maintenant parce qu'il fait chaud. Et c'est comme ça que cette semence que le Seigneur a mis en nous va porter du fruit. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Pierre 1. Il nous est donné les promesses les plus précieuses, tout ce qui contribue à la vie, la piété, tout ça, ça nous a été donné. Tout est contenu dans cette vie. Et alors il dit, au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Tu ne peux pas prendre une plante et la tirer pour qu'elle croisse. Mais tu peux faire une chose, arroser, la mettre dans un bon endroit ensoleillé, et tu peux faire en sorte que, par exemple, elle n'ait pas de dommages de gel. Et c'est ainsi que ce que le Seigneur a placé en nous, nous pouvons le développer. Ça commence avec la foi, et puis la vertu, ça c'est au verset 5 de Pierre 1, et puis la connaissance, toujours connaître le Seigneur, les vertus, ces qualités qui croissent en nous. Et dans la connaissance, la maîtrise de soi, beaucoup ont une connaissance élevée, et de sorte qu'en fait, ils ne se maîtrisent plus et veulent être à la fin quelque chose de grand. Nous ne voulons rien. Nous voulons simplement être l'Église, un membre du corps, un sarment au cep. Nous nous maîtrisons. Et puis l'endurance, et après l'amour fraternel. Une Église pleine d'amour. J'espère que j'ai pas été trop long. Olga, tu es déjà là. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur pour l'amour, l'unité dans l'Église. Oui, au début, nous sommes déjà au milieu. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Éphésiens 2, versets 18 à 22. Éphésiens 2, 18 à 22. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Louez le Seigneur. Nous sommes édifiés en une demeure, une habitation de Dieu en esprit. Comme nous l'avons entendu, il en va de l'esprit. Cet esprit fait la différence en nous, c'est un esprit d'amour. Il voudrait s'exprimer. Et le principe, le but de l'esprit, c'est que nous soyons édifiés, mais pas juste qu'on grandisse comme ça. Il voudrait faire de nous une demeure, une habitation de Dieu en esprit. Et que c'est en esprit, ça veut dire que cette habitation n'est pas quelque chose d'humaine, quelque chose de psychique, bien qu'elle consiste en des hommes. Il s'agit pas d'une habitation humaine. Dieu fait une différence très claire entre l'âme et l'esprit. Pour nous, c'est pas toujours si clair. Parfois, nous ne sommes pas ainsi au clair comme Dieu. Quand Jésus s'est révélé à Pierre et lui a révélé l'Église, et qu'après, c'était une révélation élevée, et Jésus lui a montré l'étape suivante pour accomplir ce plan qu'il devait être crucifié, mourir, être ressuscité le troisième jour. Et Pierre lui a dit, ça ne doit pas se passer en aucun cas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons-le. Jésus n'a pas dit, je vais y réfléchir ce que tu m'as dit. Non, il lui a dit, va-t'en. Tu penses, tes pensées sont les pensées d'homme et non de Dieu. Et ça, c'est un point important, Matthieu 16, 23. Il est important de voir ce qui est divin, ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme. Et il nous faut ce discernement dans notre esprit, afin que nous voyons ce que Dieu pense. On a toujours des bonnes intentions, personne de nous a de mauvaises intentions. Pierre avait des bonnes intentions, mais malgré tout, cet esprit en nous a une autre opinion que nous-mêmes. Jésus a exprimé cela. Et cet esprit, il œuvre en nous. Et comme nous l'avons lu aussi, nous avons les deux accès à Dieu dans un esprit. Il nous montre aussi quelle est l'opinion de Dieu et nous pouvons apprendre à connaître Dieu dans cet esprit. C'est important de connaître Dieu en esprit. Et cet accès au Père dans un seul esprit, chaque chrétien-là, chaque homme qui est né de nouveau a cet esprit. Dans le fait que nous avons reçu Jésus, comme ça a été dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Chacun qui a reçu, qui est devenu enfant de Dieu, a reçu l'Esprit. Il est installé en nous. Il ne faut pas là attendre quelque chose, y travailler, œuvrer. Il nous a donné cet esprit afin que nous le connaissions. C'est merveilleux. Je trouve ce merveilleux 19 et verset 19 est merveilleux. Nous ne sommes dans Éphésiens 2, nous ne sommes plus étrangers, mais concitoyens de la maison de Dieu. Ça veut dire dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, dans cette conférence, il n'y a pas d'invité. Il y a peut-être certains qui sont la première fois parmi nous, mais je te dis, si tu es né de nouveau, si tu es un chrétien, tu as reçu l'Esprit, tu as cru en Christ, tu n'es pas un invité, tu es né de nouveau, tu appartiens, et c'est merveilleux. C'est merveilleux, nous appartenons tous à l'Église. Il n'y a pas là un examen d'entrée. Le fait que nous soyons croyants en Jésus, que nous l'avons reçu, nous appartenons aux saints, à la maison. Nous sommes concitoyens des cieux, des saints, et nous faisons partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Il n'y a pas d'autre condition de limitation. Qu'importe où nous sommes, dans quel pays, je sais qu'il y a des personnes de différents pays ensemble, c'est merveilleux. Nous appartenons tous ensemble, un seul corps à cette maison. Et c'est pour ça aussi il y a quelques versets avant, nous l'avons pas lu, il a fait des deux un seul. Il a détruit ce mur de séparation, l'inimitié, dans Éphésiens 2, 14. Il a fait des deux un homme nouveau. Il a fait la paix. Il a détruit tous les murs entre nous. Tous ceux qui pouvaient être édifiés ou que nous voulions édifier. Le Seigneur a posé une base où nous pouvons être édifiés et tout ce qui nous sépare peut être mis de côté. Nous sommes enclins très vite à bâtir un mur. Très vite sur la base de nos différences. Oh, nous pensons celui-ci est ainsi, celui-ci n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Par principe, à considérer les différences entre nous. Je crois que nous avons aussi été éduqués à prendre en considération les différences. Je sais pas comment c'est parmi vous, dans mon cercle de connaissances. J'ai remarqué qu'on fait souvent dans le monde, on considère les différences, c'est normal. Mais le Seigneur ne veut pas des différences. Il veut l'unité entre nous. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous un homme nouveau. Il a détruit tous les murs. Et nous ne devons pas être là à construire un nouveau mur. Nous devons faire attention. Et la clé, comme ça a été dit dans les messages, la clé, c'est notre esprit. Je dois connaître cet esprit. Comment cet esprit est en moi? Comment il réagit? Comme ça a été dit ce matin, nous ne devons pas essayer à entrer en Christ. Nous sommes déjà en lui. Le Seigneur a dit, demeurez en moi. Et si nous demeurons en lui, nous sommes aussi en esprit. Et si nous sommes en esprit, nous sommes un. Louez le Seigneur. Si nous ne sommes pas en esprit, c'est possible. Je peux être humain, charnel, avec des bonnes intentions comme Pierre, comme nous l'avons vu. Ou simplement religieux, nous voulons savoir les choses d'une manière légaliste. Mais alors, c'est très difficile de conserver l'unité. L'unité ne va que en esprit. Et permettez-moi encore de faire un petit détour dans l'Ancien Testament où le peuple d'Israël était un. Et le roi Salomon devait désigner un successeur. Et Salomon avait un fils, Roboam, qui devait être son successeur. Mais il y en avait un autre qui voulait être roi, Jéroboam. Il a réussi à attirer une grande partie du peuple vers lui. Et alors, il s'est dit, ce Jéroboam qui avait attiré une grande partie du peuple vers lui, il s'est dit, mais ce peuple qui a été destiné à aller au lieu que Dieu avait choisi, qui s'ils allaient offrir les sacrifices alors ce peuple, s'il retourne à Jérusalem, il se détournerait de leur roi. Ce roi avait peur. Il avait peur que ce pouvoir qu'il avait reçu et cette influence qu'il allait la perdre en laissant le peuple retourner à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé deux lieux d'adoration, un à Dan et à Bethel. Il leur a dit, c'est trop loin pour vous d'aller à Jérusalem. Vous pouvez aller dans ces lieux d'adoration. Dan ou Bethel, comme vous voulez. Et en fait, ça semblait bien pour le peuple, mais son intention était d'empêcher le peuple d'aller à Jérusalem. Et puis il a fait des veaux d'or. C'est intéressant, ça aurait dû leur rappeler des souvenirs. Mais ils ont accepté ces veaux d'or, ils l'ont pratiqué. Et il y a une division qui s'est développée et s'est manifestée. Et malheureusement, il y a un royaume du sud et un royaume du nord qui se sont formés. Et cette division, cette unité qu'ils avaient, et alors les ennemis sont venus, il y a eu tant de problèmes. Et tous les rois presque avaient des grands problèmes. Presque. Et ceci nous montre que Dieu ne voudrait en aucun cas ne se sépare, ne se divise. Et aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, des frères et sœurs avaient des différences d'opinion et Paul a vraiment réagi très fortement. Est-ce que Christ est séparé? Qu'est-ce qui se passe là? Et encore aujourd'hui, cela s'est développé. Il y a tant de groupes dans la chrétienté et c'est pas pour la joie du Père. Le Père est plus simple. Je voudrais dans une ville, une église. Mon peuple devrait être un. On parle aujourd'hui d'un bouquet d'offres, d'assemblées, celle qui te convient. Mais c'est pas ce qui est agréable au Père. Le Père voudrait l'unité. Il voudrait qu'ils s'unissent. Et c'est pour ça il y a besoin de l'Esprit et notre sanctification. Il a besoin de notre transformation. Et dans, comme il est dit dans 1 Pierre 1,16, vous devez être saint car je suis saint, mais Pierre cite une citation de l'Ancien Testament. Lisons encore une fois dans Lévitique 19. Nous allons prendre 3 versets. On ne peut pas prendre tout le chapitre, ça ferait trop. Mais nous allons lire Lévitique 19, 2, 10 et 18. Lévitique 19, 2, 10 et 18. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Verset 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le Seigneur montre dans tout ce chapitre ce que ça veut dire être saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? Est-ce que ça veut dire qu'on suit des commandements? Il y a des merveilleux versets. ce que nous devons faire, ce que nous devons laisser. Si on regarde de manière plus précise, ces versets nous montrent que la sainteté est une nature, que la sainteté est la nature de Dieu. Pour la sainteté, ça ne veut pas dire en premier lieu ce que je fais, ce que je fais pas, mais que j'exprime Dieu. Le problème avec nous, que la sainteté, la sanctification va à l'encontre de notre nature déchue. Nous ne sommes pas de manière naturelle ce que Dieu entend par sainteté. Et comment cette sainteté peut se produire? Retournons dans Jean 17. Jean 17, verset 19, je vais le lire. Je me sanctifie à cause d'eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. Jean 17, 19. Et dans Romains 8, verset 29, le Seigneur a dit au Père, je fais toujours ce qui te plaît. Et il s'est sanctifié à cause de nous pour que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Le secret de la sainteté est caché en Christ. En Christ, il y a ce secret. Et nous avons besoin de la sainteté. C'est la substance de base pour l'unité pratique. La sanctification se produit par le Seigneur lui-même. Nous avons besoin de l'Esprit. Et finalement, la sainteté se produit par ce contact avec le Seigneur, quand nous avons cette communion avec le Seigneur, quand nous touchons notre esprit. Comme le Seigneur a dit, sanctifie-les dans la vérité. Et le mot vérité peut aussi être traduit par la réalité. Il nous faut entrer dans cette réalité, toucher cette réalité. Ce n'est pas une question de méthode, mais de réalité. Et nous pouvons toucher. Nous avons déjà eu de la communion. Nous pouvons avoir de la communion dans les réunions précédentes. Je prie, je viens à la parole, je le mange. C'est une expérience précieuse. Aussi ensemble dans les communions. Et quand nous touchons le Seigneur, il pourra faire plus de demeure en nous. Et alors, le Père et le Fils demeurent en nous. Et nous expérimentons de plus en plus de sanctification. Et cette sanctification a à voir avec la purification. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut le lire? 2 Corinthiens 7, verset 1. Seigneur Jésus. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous nous purifions toute souillure de la chair et de l'esprit. Et comme ça, nous menons la sanctification à la perfection. Et c'est pour ça que nous avons si besoin d'une purification. La purification est une chose importante. Si nous ne correspondons pas à Dieu, si nous ne le laissons pas, ne sommes pas prêts à nous laisser traiter. Et je pourrais vous raconter quelque chose. J'ai coupé les buissons et là il y avait une espèce de buisson qui faisait une mauvaise impression. J'ai bien taillé les buissons, ça faisait une bonne impression. Et puis là, j'ai vu un buisson qui avait plein de branches desséchées, et je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, c'était un lierre qui poussait depuis le sol et avait presque étouffé des branches. J'ai remarqué, il ne s'agissait pas juste de tailler, il fallait que j'enlève cette mauvaise herbe, ce lierre. Ça m'a montré quelque chose. Il y a aussi des choses qui doivent sortir notre cœur. C'est d'un côté de couper, mais il faut aussi que les mauvaises herbes soient enlevées. Comme le Seigneur avait parlé des ronces qui devaient être enlevées dans la parabole du semeur, qui sinon allaient étouffer la bonne semence. Oui, ces ronces étaient une espèce de mauvaise herbe. Il y a des plantes qui peuvent pousser et qui peuvent étouffer cette bonne parole, la semence. Nous pouvons faire des bonnes expériences, mais si en parallèle, il y a des choses qui croissent, qui ne correspondent pas au Seigneur, cette bonne parole qui est en nous, ces mauvaises herbes peuvent détruire cette bonne semence que le Seigneur a semée en nous. Il est bon de faire attention, de veiller à tout ce qui peut pousser dans notre cœur, afin que ce qui est semé dans mon cœur ne soit pas étouffé. Il est bon d'avoir cette conscience déjà dans notre jeunesse, à 15 ans, 20 ans, 25 ans, durant ces périodes. Il y a des choses qui sont faites, déposées pour le reste de ta vie. Il est bon là de vraiment faire attention à son cœur et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux me donner et je prie pour la sanctification. Naturellement, c'est pas juste pour des jeunes, pour tous les âges, pour 80, 85 ans, je sais pas. Je peux toujours commencer nouvellement. Je peux toujours nouvellement me décider pour le Seigneur et toujours à reprendre ces décisions pour le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, il nous est dit que le Seigneur nous sanctifie toujours plus. Et à la fin, c'est ce que nous avons souvent dit, que le troupeau arrive ensemble au but. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prendre ces décisions, nous sanctifier. Mais c'est une affaire volontaire, d'un choix libre. Chacun doit apprendre. Le Seigneur a besoin de ces décisions libres pour nous édifier, nous amener ensemble au but et pour que cette unité devienne visible. Le Seigneur veut voir quelque chose, et alors le monde verra que le Seigneur a été envoyé par le Père. Il est bon de prier, Seigneur, je me sanctifie pour ton plan. Je voudrais te correspondre, je voudrais te donner mon cœur. Amen. Amen. Pour résumer, nous devons connaître le Seigneur en nous, nous avons besoin de l'amour et de la foi pour Dieu. L'amour est un point important, c'est un fruit de l'esprit, et nous avons besoin de l'esprit et de la sanctification pour toucher le Seigneur et pour nous laisser purifier. Louez le Seigneur. Vous pouvez continuer. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, nous vous proposons de vous connecter au lien français, au canal français. Gloire à Dieu.